Marjorie, les aveux d'un mourant. À quoi sert la religion? Disent bien des jeunes gens, bien des hommes mûrs aussi, et des vieillards. Est-ce que la morale ne suffit pas? N'y a-t-il pas une foule d'honnêtes personnes qui n'ont pas plus de soucis de l'évangile que vous et moi du Coran? Les réponses, Dieu merci, ne manquent pas. J'en donnerai trois. Et surtout, comme les exemples valent mieux que les raisonnements, je vous mènerai au lit de mort du vieil Alphée. D'abord, toutes les pensées s'accordent à dire que l'honnêteté consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, celui qui se contente de morale et proscrit la religion ne rend aucun hommage à la divinité, qui pourtant y a tant de droits. Donc, il manque au premier de ses devoirs. Donc, il n'est pas honnête. Ensuite, il y a les péchés de pensée, dont les honnêtes gens, selon le monde, ne se font un scrupule aucun. Sont-ils honnêtes en cela? Enfin, même pour l'honnêteté proprement dite, soit que par là vous entendiez la probité ou la pureté des mœurs, quelle distance entre le chrétien et le simple honnête homme. Mais sur ce troisième point, je vous ai promis les aveux d'un mourant. Les voici. Alphée, qui a vécu en libre penseur, était tombé gravement malade, malade pour mourir, et il se résigna de mourir en bon chrétien. À quoi bon, direz-vous? C'était un si honnête homme. Oh, s'il s'agissait de Dolphin, l'usurier, ou de Godard, qui travaille dans les affaires véreuses, ou de Tarot, qui a maille à partir avec la correctionnelle, ou de Pierre, dont les mœurs sont effroyables, ou de Paul, qui ment et fraude à la belle journée, je vous comprendrai. Mais voilà qui ont besoin de rendre grâce à leur conscience. Mais cet honnête Alphée, eh bien, Alphée va être administré. Il a convoqué pour la cérémonie deux catégories distinctes. Ceux qui l'ont exhorté tant de fois à revenir à Dieu et que cette conversion in extremis comble de joie, et ceux qui ont besoin d'être éclairés sur la question qui nous agitions à l'heure. Quelle plus vive et plus décisive lumière que celle du sage Alphée qui, avant de mourir, reconnaît l'insuffisance de la morale humaine et n'est tranquillisé contre les terreurs de la vie à venir qu'en faisant acte de chrétienté. Mes bons amis, dit le mourant, je vous ai prié de venir tous ici. J'ai quelque chose de très important à vous communiquer. Plusieurs de vous m'ont vu petit enfant, et pour ceux qui ne m'ont connu que plus tard, je dirais que mon enfance fut chrétienne, élevée par des parents qui étaient des saints. Je suçais la piété avec le lait. Et jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, la religion fut pour moi non seulement le premier des devoirs, mais la plus admirable, la plus divinement admirable institution qui se puisse imaginer. La pratiquer, l'aimer, travailler à sa diffusion, la louer et l'exalter. C'était pour moi, en attendant le bonheur du ciel, le plus vrai des bonheurs sur la terre. Et quand je passais de l'enfance à l'adolescence, cette conviction faiblit un peu, beaucoup, lorsque, d'adolescent, je devins un jeune homme. J'arrivais ainsi, du même coup, à l'âge d'homme fait et à la profession, non pas seulement à l'indifférence religieuse, mais à l'impiété déterminée. À ceux qui m'interrogeaient, plus ou moins ouvertement, sur ces crises successives, je laissais croire qu'elles étaient en effet naturelles et nécessaires. C'était mon développement intellectuel. Et à mesure que mes facultés gagnaient en force et en étendue, j'abandonnais la foi, que je nommais crédulité, aux femmes et aux enfants. Elle leur était nécessaire et leur suffisait. Je gardais pour moi la raison, la part du lion. Telle est du moins la comédie que je jouais sur la scène du monde, que j'essayais même, avec très peu de succès, de jouer sur le théâtre de ma propre conscience. De fait, la religion me gênait, et j'aurais voulu m'en débarrasser. Comme je vous ai appelé pour vous dire la vérité tout entière, voici quelques exemples des forfaits que j'ai commis et que j'aurais voulu cacher à moi-même. Hélas, ou plutôt Dieu merci, jamais je n'ai réussi. Jamais le ver dont parle l'Évangile ne cessa de me mordre cruellement au point le plus sensible de l'âme. Il y a 3 mois, quand je me mis au lit, je me dis que cette morsure n'était rien comparée au supplice qui m'attendait de l'autre côté du tombeau. Si je ne me repentais pas de ces crimes, et je commençais à les expier ici-bas. Vous dressez l'oreille, n'est-ce pas, en m'écoutant. Et ce mot de crime vous paraît bien gros pour l'honnête Alphée. Et je répète que cet honnête Alphée n'était ni plus ni moins qu'un hypocrite. Jugez-en plutôt par ces échantillons. Évariste et moi, nous courions le même lièvre. J'entends que nous convoitions le même poste. Poste très honoré et bien rétribué. Évariste avait plus de droits. Au commencement, plus de chance que moi. Alors je le calomniais habilement et si habilement qu'excepté Dieu et ma conscience, nul ne sut jamais d'où venait ce subtil poison que je versais dans l'esprit des juges. Évariste resta sur le carreau et je pris la place. 2. Je me mariais. Ma femme était un ange. Ses vertus mêmes, surtout sa piété, quoique absolument irréprochable et inoffensive, ses vertus même me la firent prendre en grippe. Je la traitais comme une ennemie. Je lui donnais prise car qu'aucun reproche, moi, ni dans mes reconduites personnelles, ni dans mon attitude envers la pauvre Edmée. Mais ma froideur, ma défiance, ma dureté, mon mépris, mes invectives contre ce qu'elle aimait et ce qu'elle vénérait. Le plus fort, tout cela lui brisa le cœur et elle mourut de chagrin. Troisièmement, je ne pouvais même pas, quand je cherchais m'innocenter, je ne pouvais même pas m'appliquer la phrase bien connue, mais je l'ai ni tué ni volé. Bon, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Mes mauvais traitements avaient mené ma femme au tombeau. Et donc, en temps de la tuer, je la volais, ou du moins ses héritiers. Moitié ruse et moitié démence, j'avais amené à me faire le don de presque toute sa fortune. Oh, j'étais riche déjà, et les héritiers d'Edmeux étaient pauvres. Je leur laisse aujourd'hui, oh, tardive réparation, tout ce que je leur ai subtilisé il y a 20 ans. Quatrièmement, enfin, j'ai fait bien d'autres choses que la religion éprouve, et aussi une saine morale. Mais la morale du monde est si malsaine, et rien n'égale sa honteuse indulgence. Quoi qu'il en soit, vous devez être, par ces quelques exemples, édifiés sur les horreurs que commettent sans sourciller ce que l'on appelle les honnêtes gens. Assurément, je ne suis pas dans la conscience des autres. Je suis dans la mienne. Je ne vous dis que l'exacte vérité lorsque j'affirme que si j'ai tirer mon chapeau à la religion, c'est pour pouvoir accomplir tranquillement toutes sortes d'actions que la religion proscrit. Heureusement, je n'ai jamais pu arriver à cette tranquillité. Et c'est un bienfait de plus dont je serai assez remercié mes bons parents, qui avaient posé si avant dans mon âme la semence bénie de la foi. Cette semence avait poussé de si sourdes racines que jamais tous mes efforts n'ont pu me les arracher. Même alors que je me posais en libre penseur et en moraliste, une voix impitoyable, s'élevant des profondeurs de mon âme, ne cessait de répéter « Mais tu es un hypocrite, tu prétends ne pas croire au dogme du christianisme, mais tu y crois, si bien que la pensée même de l'autre vie te fait trembler. Tu prétends que la religion n'est pas nécessaire pour faire un honnête homme. Et tu donnes modestement, comme un exemple à l'appui. Or, tu sais parfaitement qu'il y a dans la vie une série d'actes absolument incompatibles avec la plus vulgaire honnêteté. Je vous ai scandalisé, mes chers amis, par le spectacle de mes prétendues vertus. Mais je désire que ce scandale cesse. À ceux qui allégueraient mon exemple comme preuve de l'inutilité des principes chrétiens, dites-vous bien que de 20 ans à 75, je n'ai été qu'un faux honnête homme. Que Dieu me pardonne, qu'il m'agrée mon tardif retour. Et vous, mes amis, priez pour moi. L'impression fut profonde. plusieurs de ceux qui pensaient que les incrédules déterminés se joignirent de bon cœur aux prières des agonisants. De variantes résolutions germèrent, je ne sais plus, au moment où, recevant une dernière absolution, le vieil Alphée partait pour l'autre vie.